BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est toujours en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Dans l'actualité ce soir, il y a donc ces négociations très tendues qui ont débuté ce matin du côté de Volkswagen. Je dis très tendues parce que ce que beaucoup pensaient impensable est peut-être sur le point de se réaliser. Des fermetures de sites Volkswagen sur le sol allemand. L'industrie auto européenne dans tous ses états, on va en parler dans un instant avec Nathan Cocampo qui est sur place et avec nos experts, bien sûr, qui seront là à 19h15. Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, les nouvelles stars de Bercy, auditionnés aujourd'hui avec des chiffres pas très reluisants, on vous racontera ça. Et puis des marchés qui commencent à regarder de plus près la situation française. On vous donnera quelques chiffres dans le courant de cette émission. Nos experts dans un quart d'heure, qui seront-ils? Les économistes Marc Toitier et Nathalie Janson, le prof de Sciences Po Julien Damon et le chef d'entreprise Bruno Grandjean. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Regardez aussi BFM Business au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité via l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, ce sont des négociations très tendues qui ont débuté ce matin en Allemagne à Hanovre, au QG du puissant syndicat IG Metall. La direction de Volkswagen, qui n'exclut pas de fermer des sites sur le sol allemand, est arrivée là-bas sous les sifflets. Elle va devoir, comme on dit désormais, sortir du bois. Nathan Cocampo est à Hanovre pour BFM Business.
Il devait y avoir un peu plus de 1000 personnes rassemblées ici ce matin. Beaucoup de banderoles, de sifflets contre cette annonce de Volkswagen, ce tabou brisé sur de futures fermetures d'usines et de licenciements. Les salariés se sont mobilisés pour peser dans les négociations entre IG Metall et la direction. Écoutez l'un d'entre eux.
In my opinion, it's not the right way.
Selon moi, laisser les employés payer pour les mauvaises politiques de l'entreprise n'est pas la bonne solution. C'est la première fois que Volkswagen parle de virer des salariés et de fermer des usines. Et pour nous, ce n'est pas envisageable, car ce n'est pas la culture de l'entreprise.
Volkswagen a donc brisé son pacte, son accord avec ses salariés qui devait normalement s'étendre jusqu'en 2029. La presse allemande a évoqué 30 000 suppressions de postes, mais la direction a vite démenti. Reste que la situation est très compliquée pour Volkswagen, en retard sur son virage électrique. Le constructeur fait face aussi à une chute de ses ventes en Chine et un manque de compétitivité de plus en plus problématique.
Voilà où va Volkswagen, mais où va au-delà de Volkswagen l'ensemble de l'industrie auto européenne? Ça aussi, bien sûr, on en parle largement avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. En France, je vous disais, des auditions très importantes tout à l'heure à l'Assemblée. Celle des nouvelles stars de Bercy, Laurent Saint-Martin, Antoine Armand. Bonsoir Thomas Asportas. Comment dire, ils ne sont pas venus avec des bonnes nouvelles aujourd'hui, Thomas?
Et Laurent Saint-Martin, d'emblée, a planté le décor de la discussion avec les députés. Il a mis un chiffre sur la situation très grave dont Michel Barnier parle depuis une semaine sur nos finances publiques. On l'écoute.
Je n'irai pas par quatre chemins. La première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut, selon les dernières estimations dont nous disposons. Chut. Ma vision, c'est que nous ne redresserons pas nos finances publiques avec, d'une part, la baisse de la dépense publique et, de l'autre, le levier fiscal en même temps. Ça ne marchera pas. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement.
Et tout le monde devra participer à l'effort, dit-il. L'État, la sécurité sociale, les collectivités. Il faudra que l'effort soit collectif, dit le ministre du Budget. Et ensuite, quand les économies auront été faites, et uniquement à ce moment-là, pas avant, on commence à discuter de hausse d'impôts et uniquement pour faire de la justice fiscale. Laurent Saint-Martin a répété qu'il n'était pas question de hausse d'impôts qui pénalise le travail, les classes moyennes, les travailleurs modestes. Il a par exemple fait comprendre, c'est important, qu'il n'est pas du tout partant pour un gel de l'impôt sur le revenu. Pas question non plus de hausse d'impôts qui casserait l'attractivité du pays et la compétitivité des entreprises. Et si on respecte ce cadre fixé par Michel Barnier et les nouveaux patrons de Bercy, alors oui, les ministres sont ouverts à la discussion avec les députés pour faire de la justice. justice fiscale. Une discussion qui va démarrer le 9 octobre. Les ministres ont confirmé que le budget arrive le 9 octobre à l'Assemblée et il sera transmis le 31 octobre à la Commission européenne. Antoine Armand a annoncé qu'il avait négocié un nouveau délai avec Bruxelles qui normalement aurait dû recevoir le document au plus tard le 20 septembre.
Merci beaucoup Thomas. On verra ce qu'il y a dans cette fameuse feuille de route. Effectivement, ça sera le 31 octobre, donc dernière date butoir. Pendant ce temps, Michel Barnier qui a reçu plusieurs représentants syndicaux aujourd'hui, toujours pour préparer son discours de politique générale de mardi prochain. Il a notamment reçu la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui a été catégorique. Il faut enterrer la réforme de l'assurance chômage. Il faut abroger la réforme des retraites. 19h05, on va écouter à présent le patron d'EDF, Luc Rémont, qui lui aussi a été auditionné ce matin à l'Assemblée et qui l'a redit. Ce projet de taxe à 3 milliards qui menace EDF, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Écoutez.
Quand une entreprise est visée par un impôt dont elle représente environ 90% de la masse fiscale, alors qu'elle est déjà grevée par une régulation qui l'oblige à vendre 2/3 de sa production en dessous de ses coûts, il est difficile d'imaginer un avenir d'investissement pour cette entreprise. Donc, si une telle disposition était votée, il est clair qu'il y aurait des conséquences sur le plan d'investissement, au moins d'EDF, et peut-être sur davantage d'éléments de notre stratégie.
Voilà, Luc Rémont, catégorique comme toujours, tout à l'heure à l'Assemblée. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Est-ce qu'il va être coupé à cette super taxe à 3 milliards pour vous, le patron d'EDF?
Ce qu'il dit là, c'est qu'en tout cas, lui, il cherche évidemment à éviter le piège qui est en train de se tendre, parce que l'État face à ces contradictions. En gros, il dit, si vous nous taxez, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas nous demander également d'investir, de relancer le nucléaire, de restaurer les centrales. Pas oublier que la société sort d'une période où c'est un petit peu compliqué, et même si maintenant, les finances sont quand même redressées, mais effectivement, il dit à l'État, si vous nous taxez, et en gros, c'est une taxe d'EDF, puisque 90% des 3 milliards contenus dans cette taxe proviendraient des centrales nucléaires d'EDF, on investira moins, et donc on reverra à la baisse notre programme d'investissement. En gros, la menace, c'est ça, et le bras de fer, il l'engage exactement comme ça. Donc, est-ce qu'il va échapper à un prélèvement de l'État? Sûrement pas. Son idée à lui, c'est de dire, ne nous taxez pas,
oui,
laissez-nous investir, et à la fin de l'année, on verra ce qui nous reste dans les caisses. Et comme EDF va faire une super année, en gros, on se dirige vers comme une année à 10 milliards d'euros, on peut vous verser un dividende exceptionnel. Et qui dit exceptionnel, dit... on le fait cette année, on le fera pas l'année prochaine. Alors qu'une taxe, au moment où elle est installée, c'est difficile l'année d'après, comme il y aura toujours des déficits l'année prochaine, de l'enlever. Donc c'est un peu ça qui se joue, c'est un petit peu ça le bras de fer, ce qui correspond peu ou prou à ce que disait le patron du MEDEF, Patrick Martin, pour faire une contribution dite exceptionnelle.
Le bras de fer continue donc. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous. Cette plainte assez inhabituelle. Google dépose plainte contre Microsoft devant la Commission européenne. Google accuse son concurrent de pratiques anticoncurrentielles dans le domaine du cloud, en poussant, dit-il, ses clients à utiliser sa propre plateforme. On en reparlera largement dans Tech & Co à partir de 20h, évidemment. Et puis alors, on parlait tout à l'heure de Volkswagen en Allemagne. On va y retourner. On va parler de la Commerzbank, qui tente, vous savez, de contenir les assauts de l'italienne UniCredit. Sauf qu'en plein milieu de ce bras de fer, la Commerzbank a subitement décidé de changer de PDG. C'est l'actuelle directrice financière qui a été nommée aujourd'hui, Caroline Morisseau.
Pas question de maintenir un patron sur le départ alors que se joue l'indépendance de Commerzbank. Manfred Knopf devait quitter le groupe fin 2025. La banque a préféré confier les rênes dès maintenant à Bettina Orlop, 54 ans, chez Commerzbank depuis 10 ans. Sa principale mission, contrer l'offensive d'UniCredit qui a suscité une levée de boucliers en Allemagne. Syndicats et politiques sont montés au créneau pour défendre l'indépendance de Commerzbank, rouage essentiel de l'économie allemande. Dans ce contexte, Bettina Orlop a appelé tout le monde au calme et a exhorté l'État, qui détient encore 12% de la banque, à ne plus céder d'actions. Message reçu par Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui après avoir laissé entrer le loup dans la bergerie en cédant 4,5% du capital à UniCredit, s'est engagé à conserver ses parts. Bettina Orlop va désormais devoir entrer dans le vif des discussions avec le patron d'UniCredit, Andrea Orsel, ancien banquier d'affaires chez Merrill Lynch, rodé aux fusions-acquisitions, qui souffle le chaud et le froid après être monté de manière agressive au capital de Commerzbank. Il promet aujourd'hui de ne pas brusquer les choses.
Voilà la saga qui continue du côté de Commerzbank, évidemment. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 19h09. On retourne sur les marchés. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Comment ça s'est passé à la Bourse de Paris aujourd'hui?
Petite baisse pour le CAC 40. C'est vrai qu'hier, on avait eu une belle hausse avec l'annonce de tout un tas de mesures très positives pour l'économie chinoise. Ça avait porté les indices. Mais là, on redescend, moins 0,5%. 7565 points. On prend des bénéfices immédiatement. La tech s'est bien comportée. Une surperformance de l'Euronext Tech Leaders qui gagne 0,4%. Mais on a des baisses du même ordre que le CAC. Sur l'ensemble de l'Europe boursière, le DAX, l'Eurostock 50, on replie de 0,4%. Plus forte hausse du CAC 40, téléperformance avec BlackRock qui monte au-delà des 5% du capital et le titre en profite pour gagner 3,9% à 100 euros. En revanche, en bas de tableau, on a Total Energy qui a perdu 1,9%. Dans le sillage des prix du brut qui sont largement en phase de correction, on vient de passer sous les 73 dollars d'ailleurs à l'instant sur le Brent, 72,99. Sinon, à signaler Air France KLM. Très bonne recommandation de JP Morgan, le titre grimpe de 6% à 8,92 €.
Et il y a un titre apparemment sur lequel ça s'est beaucoup agité, c'est Ubisoft aujourd'hui.
Ça risque de s'agiter aussi demain à l'ouverture. Non, mais c'est un peu la cata pour Ubisoft, pour employer les mots qu'il faut. Le titre a perdu 4,5% à 11,42 €. Il perd quasiment la moitié de sa valeur en 3 mois. Ce qui se passe, c'est que, alors premièrement, leur dernier jeu Star Wars Outlaws visiblement marche pas bien, ils l'avouent eux-mêmes. Mais alors surtout, ils vont reporter de plusieurs mois le lancement du très attendu nouveau volet de la saga Assassin's Creed. Il devait sortir mi-novembre, il va sortir mi-février. Donc ils vont rater toutes les fêtes de fin d'année. Et ça, évidemment, ça les oblige à effectuer un profit warning. Ils abaissent leur prévision de rentrée justement à cause de ce facteur-là. Donc le titre a perdu 4,5% aujourd'hui à 11,42 € et l'ouverture demain risque d'être particulièrement difficile.
Bon, ce ne sera pas sous le sapin, c'est ça que vous nous dites en quelque sorte, voilà, finalement. Merci beaucoup Antoine. On regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment, mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,6%, 41 928 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,1%, c'est faible, 18 086 points. 19h11, nos experts arrivent dans un instant. Des déficits qui seront au-delà des 6%, nous a dit Laurent Saint-Martin tout à l'heure. Michel Barnier qui continue de consulter, évidemment. Et puis Volkswagen, les négociations si tendues, si appréhendées ont commencé aujourd'hui à Hanovre, où la direction est arrivée sous les sifflets, évidemment. Tout ça, plus d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là comme tous les soirs, nos experts, jusqu'à 20h pour refaire l'actu du jour. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Professeur à Neoma Business School. Marc Toitier est avec nous. Marc, bonsoir.
Bonsoir cher Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
Économiste, président du cabinet ACDFI. Bruno Grandjean, bonsoir Bruno. Bonsoir, Guillaume. Président de REDEX, ancien président de la Fédération des industries mécaniques. Et Julien Damon est avec nous, professeur à Sciences Po. Merci à tous les quatre. Les nouvelles sont pas bonnes, mesdames, messieurs. Il y avait l'audition donc à l'Assemblée cet après-midi de ce qu'on appelle les nouvelles stars de Bercy, évidemment, Laurent Saint-Martin et Antoine Armand. 3 heures quand même devant la commission des finances. Et à l'arrivée, les nouvelles sont pas très bonnes. Écoutez, Laurent Saint-Martin, tout est dit finalement.
Je n'irai pas par quatre chemins. La première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut, selon les dernières estimations dont nous disposons.
Chut.
Ma vision, c'est que nous ne redresserons pas nos finances publiques avec, d'une part, la baisse de la dépense publique et, de l'autre, le levier fiscal en même temps. Ça ne marchera pas. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement.
Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ça. Déjà, je vois Marc déjà complètement abattu.
Non, parce que je me souviens...
6,1, 6,2, 6,3, on s'en fiche, la BCE sera là, on s'en fiche. Non. On a obtenu un délai d'un mois pour présenter notre feuille de route pluriannuelle. Bon, pff, et puis voilà.
Non, mais ça me fait sourire parce que, déjà l'année dernière, Bruno Le Maire nous a fait le coup fou. Il nous a dit qu'effectivement, il allait réduire le déficit. Moi, je dis non, le déficit ne se réduit pas. Effectivement, il ne s'est pas réduit. Cette année, idem. Il y a encore quelques semaines, Bruno Le Maire nous disait non, mais tout est sous contrôle, etc. Moi, ça fait 6-8 mois que j'annonce ici même d'ailleurs les 6%, c'est inévitable, c'est du bon sens. S'il y a moins de recettes à cause d'une activité économique atone et qu'on continue d'augmenter les dépenses, mécaniquement, il y a plus de déficit. Ce qui est inquiétant quand même, c'est que là, j'ai l'impression qu'il devient complètement incontrôlable, ce déficit. Et donc, à partir de là, comment va-t-on réussir à le réduire? Et surtout, quel impact? Parce que pour l'instant, c'est vrai que les marchés, ils paniquent pas trop.
On parlera des marchés tout à l'heure.
Mais les taux, ça va, ça augmente. Il n'y a pas encore trop d'inquiétude, mais ne faut pas oublier que sur les deux dernières années, la France est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit public dans de telles proportions. Même les Italiens, ils ont fait des efforts énormes, si vous voulez. On aime beaucoup les Italiens, mais ils ont fait des efforts. Je parle même pas des Allemands ou des Portugais, même les Espagnols, quoique cette année, ils dérapent un peu. Mais bon, toujours dire que deux années de suite comme ça, un tel dérapage, ça commence à faire désordre.
Nathalie, comment est-ce que va ce dérapage? Est-ce que vous dites, vous aussi, je l'avais vu venir, ces 6%, voire plus, parce qu'on nous dit juste ça pourrait être plus de 6% potentiellement.
Mais compte tenu de l'inaction publique sur le sujet qui fâche, c'est-à-dire les dépenses, voilà, on peut juste dire que ce n'est pas très surprenant. Ce qui est effectivement surprenant, c'est à chaque fois cette surprise. L'année dernière, en effet, c'était la première fois que Bruno Le Maire arrivait en disant « Oups, excusez-moi, en fait, il est à plus de 5 ». Et puis là, en fait, il avait dit « Normalement, il ne devrait plus y avoir de dérapage ». Et on arrive, alors c'est un peu surprenant que tout d'un coup, on découvre qu'il est 6. Enfin, c'est surtout ça qui est un petit peu inquiétant. On a l'impression que c'est comme ils vont donner du grain à moudre à ceux qui leur disent que les comptes publics sont faux. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Parce que on a entendu souvent...
Ça veut dire qu'on bosse plus à Bercy ou qu'on bosse moins bien, ça veut dire quoi?
Moi, ce qui me préoccupe dans ce message, c'est qu'en effet, vous avez entendu plusieurs fois cette année des personnes, surtout du RN, dire l'insincérité du budget. Et donc là, en fait, il leur donne du grain à moudre, puisque pourquoi refaire le coup de on l'a pas vu venir? Je suis sûre qu'ils l'ont vu venir. Oui. C'est pas possible qu'il l'ait pas vu venir. Voilà. Donc moi, c'est cette dimension qui me préoccupe. Je me dis, mais pourquoi avoir fait ce jeu-là? Parce que là, on fait vraiment le jeu de ceux qui montrent que l'État n'est pas sincère.
Je veux avoir votre avis là-dessus, Bruno. Et puis sur la deuxième partie de la phrase de Laurent Saint-Martin qui dit prioritairement la baisse de la dépense publique.
Enfin.
Avant de parler des hausses d'impôts qui, on est d'accord, ont quand même largement occupé le terrain médiatique depuis une quinzaine de jours finalement. Voilà.
Oui, alors sur le premier point, c'est vrai que les extrêmes jouent beaucoup là-dessus parce que jusqu'à présent, on disait au moins les finances, le pays est tenu, les finances sont tenues, on sait, on connaît les déficits, il y a des trajectoires, etc. Maintenant, ce point-là et la crédibilité des raisonnables, je dirais, est endommagée avec ce qui se passe actuellement. On découvre des déficits qui varient tous les jours. Alors, sur le débat public, qu'on soit passé à faisons plus d'impôts, plus de prélèvements, à faisons plus d'économies, bon, on attend la prochaine saison parce que ça varie toutes les semaines.
Ah, vous n'avez pas l'impression qu'on va rentrer dans le dur, là, sur ce sujet, véritablement?
Il va bien falloir, mais je n'entends pas.
Non, c'est pour ça que je dis depuis 15 jours, on n'entend plus
pas. Alors voilà, depuis 15 jours, on ne spécifie pas les économies. Tant qu'on ne rentre pas dans le dur, c'est facile de dire il faut faire des économies, supprimons le millefeuille, supprimons ceci, supprimons cela,
vous avez déjà les pistes, Bruno.
Enfin, c'est
cas,
un autre sujet, mais il y a des pistes qui sortent, mais elles ne sont reprises par personne. Et puis surtout, il y a un mot qui manque terriblement dans tous ces débats, c'est que c'est l'économie des Français, c'est pas l'État. On a l'impression que c'est une personne physique qui a des problèmes de fin de mois. L'État, c'est nous. Et finalement, ce qui manque dans toute cette communication, c'est le mot d'effort. Il faut que les Français fassent des efforts. D'ailleurs, le débat, ce n'est pas forcément plus de prélèvements ou plus d'économies. C'est peut-être aussi plus de travail. Ça peut être aussi de faire plus d'efforts, de travailler plus pour que notre PIB augmente, pour qu'on améliore nos ratios. Ça, c'est quelque chose qui est totalement sorti du débat public, puisque nous sommes infantilisés et victimisés en permanence.
Julien Damon, sur ce très beau tableau, alors qui n'est pas complet, parce qu'on nous désormais au moins 6%, potentiellement plus de 6% de déficit à la fin de cette année, finalement. Voilà. Vous rappelez certains pays de l'Europe du Sud qui maquillaient un petit peu les chiffres, finalement, dans les années...
La dernière fois qu'on a connu ça, c'était à l'époque de la Grèce.
C'était la Grèce,
En 2010, les chiffres avaient annoncé... La Grèce avait annoncé 4% de déficit, c'était 10%. Donc là, pour l'instant, on n'est pas autant, mais on avait annoncé 4, on est à peut-être à 7. Ça commence à déraper.
On donnait le sentiment de maquiller les chiffres, finalement. Attention à ce que ça soit pas la perception qu'on ont les marchés dont on parle tout à l'heure.
Je voudrais faire trois remarques rapides.
Allez-y.
La première, c'est que Nathalie a trouvé la bonne formule, je trouve. C'est, je trouve surprenant que l'on soit surpris. Enfin, quand même, on est là, on reprend la formule. Il y a eu cette formule formidable. On le sait que ça va mal. Alors là, on est en train de se bagarrer sur des virgules. C'est pas la situation grecque. Enfin, vous l'avez évoqué. C'est ma deuxième remarque. Moi, je n'aurais pas d'alarmisme sur la qualité de la haute fonction publique de Bercy. Ils sont au courant. Ils savent. Là, je sais pas. Pendant quelques jours, on va peut-être s'étriper de façon politique
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites le Bercy, on bosse, on est compétent.
Moins de recettes et toujours
qu'est-ce
autant de
dépenses. Qu'est-ce qui fait passer pour qu'à trois fois dans l'année, finalement? Ça a commencé en début d'année. Et puis les vents sont venus pour nous dire ça sera pas 5-1, ça sera 5-6. Aujourd'hui, on nous dit plus de 6. On a vu fuiter des documents qui disaient 6. et désormais on en dit plus de 6. Oui. Je veux dire, ça fait 3 ou 4 fois dans l'année où à Bercy...
Moins de recettes et une croissance plus faible que ce qui est prévu lorsqu'on fait les premiers chiffres. Et ma troisième remarque, c'est sur les dépenses. Je trouve très bien que le ministre nous dise, bon, on va s'attaquer aux dépenses. Je trouve également souhaitable que l'on dise dans le détail...
Bon, enfin, il ne s'est pas attardé non plus.
Pas encore, il ne s'est pas attardé, mais il faut qu'il le fasse. Parce qu'il y a une règle très très simple, c'est que c'est bien plus aisé de parler de justice fiscale, ce qui signifie augmenter les impôts, et dépenser moins. Ça veut dire politiquement prendre des risques majeurs.
Bah on attend ça. Moi, je pense que c'est. J'ai envie de dire, c'est ça. Ça serait pas trop tôt.
Pour quand, pour mardi prochain, le discours de politique générale, non, ou peut-être.
Je pense que malheureusement, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on a vu, l'évolution. C'est-à-dire que déjà la semaine dernière, il y a le gouverneur de la Banque de France, quand même, oui. C'est pas n'importe qui, oui. Qui nous dit, il faut arrêter de ne pas parler de la hausse des impôts. Il va falloir augmenter les impôts. Il a dit
trois quarts de l'effort sur la baisse de la dépense.
Sur les gros contribuables et sur les grandes entreprises. Moi, j'avais envie de dire, quand j'ai entendu ça, Jean-Luc Mélenchon sort de ce corps, parce que effectivement, c'était un petit peu
sort de cette banque,
ou de de cette banque. C'est-à-dire que c'est quand même surprenant que le gouverneur de la Banque de France. Je rappelle que la Banque de France, c'est la gardienne de la raison économique, entre guillemets, de la rationalité économique. Donc nous dire aujourd'hui qu'on va encore augmenter les impôts et que ça va passer tranquillement, c'est quand même inquiétant. Après, on a eu M. Barnier qui a dit la même chose. Hier, le ministre de l'économie également qui dit la même chose. Enfin, il a dit un chiffre assez incroyable. Enfin, un chiffre. Il n'a pas donné de chiffre, mais une phrase assez incroyable. Il a dit que c'était le plus grave, le pire des déficits de l'histoire.
Vous pouvez pas dire autre chose.
Non,
vous passez derrière,
mais le pire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, mais c'est-à-dire, c'est pas 6%. C'est bien plus élevé. Donc, et alors que deux jours avant, il avait félicité Bruno Le Maire sur son bilan en le remerciant de lui avoir laissé un héritage aussi formidable.
Dimanche.
Non, mais attendez, ça fait pas sérieux.
Guillaume,
ça fait pas sérieux. Ça fait vraiment, encore une fois, c'est les guignols de l'info, si vous voulez, mais dans la vraie vie. Donc, il faut. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, effectivement, Thalie l'a bien dit, faire attention. On marche sur un volcan et tout ça va évidemment montrer que malheureusement les comptes ne sont pas tenus et que derrière les Français ne vont pas évidemment être satisfaits.
Économie sur donc la ça dépense, va continuer d'augmenter. Michel Barnier qui a reçu les syndicats aujourd'hui qui répètent qu'il faut faire des économies sur la dépense et qu'il n'est pas question de revenir sur la réforme des retraites. Écoutez François Omri, le patron de la CFE-CGC qui est sorti de ce rendez-vous, qui s'est entendu dire que ça serait non, l'abrogation de la réforme des retraites, et qui était un peu chafouin forcément. Écoutez.
On n'est pas trop favorable à rentrer dans un dispositif dans lequel on viendrait nous dire on va chercher à améliorer le système. Pour nous, la réforme, elle n'est pas bonne. En l'état, elle ne règle aucun problème, elle ne fait qu'en créer. Et donc, la meilleure des positions, la meilleure des solutions, ce serait de l'abroger. On ne méconnaît pas le fait qu'il y a un certain nombre de problèmes et nous, on est prêts à en discuter, notamment au premier rang de cela, la question de l'emploi des seniors, qui est le sujet qui est toujours resté l'angle mort, en fait, de nos discussions depuis 2 ans sur la question des retraites.
Sujet absolument primordial. Bruno Grandjean, je le vois tiquer. Je voulais avoir votre point de vue sur tout le discours ambiant sur les hausses d'impôts à l'heure actuelle. Vous voyez que même le MEDEF se dit pas opposé à un one-shot.
C'est le syndrome de Stockholm.
Bravo.
Il y a une bonne forme de masochisme. On voit que le magistère de LFI s'étend très loin à droite et que finalement, tout le monde est pour prélever plus, à part quelques résistants, mais très isolés.
Mais si le MEDEF lui-même dit pourquoi pas sous condition
alors
la CPME, apparemment,
est prête. C'est le secteur exposé, parce que finalement, quand on est dans le secteur abrité, si on nous prend plus, mais qu'on prend plus aux concurrents, c'est pareil. Mais le problème, c'est quand on est en concurrence avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Coréens ou autres, là, quand on commence à vous prendre plus, alors qu'on vous prend déjà beaucoup, c'est la mort assurée. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme, notamment l'industrie, qu'on n'entend pas du tout. Et je voudrais dire un mot du crédit d'impôt recherche, peut-être un peu plus tard. On a vraiment un défi pour faire survivre notre industrie aujourd'hui, en tout cas le secteur exposé, tous ceux qui sont dans la concurrence internationale. Et pour eux, il est hors de question d'entendre parler de prélèvements supplémentaires. C'est un suicide français.
Donc le MEDEF va un peu vite en besogne. Là, le MEDEF a parlé un petit peu tout seul.
Il représente des intérêts très contradictoires. Oui. Donc évidemment.
Apparemment, du côté de la CPME, du côté de la CPME, c'est pas la même musique à l'heure actuelle.
Oui, parce qu'on est un peu plus terrain.
Est-ce qu'on est en train d'enterrer la politique de l'offre, disons-le carrément, Nathalie, finalement.
Il faudrait surtout pas. Surtout, ça serait très dangereux d'enterrer la politique de l'offre qui a à peine, comme le dirait Bruno, commencé ou même pas commencé du tout.
Il n'y a pas une politique de l'offre alors pour vous.
Si, mais par rapport à ce qu'il y a eu
avant, il y a eu un peu, enfin, en tout cas, il y a eu quelques avantages, quelques réformes en faveur, mais pas suffisamment. Et cette histoire d'impôt, enfin, moi, j'étais vraiment très étonnée qu'on parte sur ce terrain. Enfin, j'en croyais pas mes oreilles, quoi, parce qu'on sait très bien qu'en plus, enfin, je veux dire, alors s'il y a beaucoup de désaccords en économie, mais bon, même effectivement, sans doute qu'à LFI, ils me diront que c'est quand même pas ça, mais dans les faits, toutes les études montrent quand même que ces impôts coûtent plus cher, enfin sur les tranches les plus aisées, coûtent plus cher qu'elles ne rapportent. Ce sont des impôts qui sont purement c'est vraiment des gestes juste pour dire que tout le monde en paye. Ça ne sert à rien, alors qu'on a une urgence pour aller combler un déficit. Donc là, je comprends pas pourquoi on fait un impôt qui ne sert à rien alors qu'il est urgent que de l'argent rentre. Donc là, c'est là où vraiment je me dis, on est totalement à l'ouest sur ce sujet.
Marc Toiti. Surtout, n'oublions pas que nous sommes numéro 1 du monde en termes de prélèvement obligatoire par rapport au PIB. Donc, oui. Si à l'arrière, on était un peu bas.
Alors, Patrick Martin, comme rappelait le chiffre hier, les entreprises françaises, je pars sous votre contrôle, supportent tous les ans 364 milliards d'euros de prélèvements fiscaux et sociaux. C'est le chiffre qu'il a donné approximatif.
Disons, encore une fois, parce que ce qui est très intéressant, sans vouloir faire, ça doit être beaucoup plus,
les cotisations sociales,
c'est beaucoup plus. Sans vouloir faire, ça me paraît un peu. Mais bon, sans vouloir faire le trop d'impôt tue l'impôt, mais ce qui est le cas et ce qui sera le cas, bien entendu. Moi, ce qui me surprend, encore une fois, c'est de prendre toutes ces personnalités qui évoquent comme si tout était normal. Quand c'est effectivement LFI qui le dit, bon, on peut comprendre, ils sont dogmatiques. Quand il y a certains économistes également, parfois, qui sont ici aussi, ils sont dogmatiques. On a l'habitude, si vous voulez. Mais là, encore une fois, un gouvernement, a priori, entre guillemets, de droite, j'ai envie de dire, on a du mal à comprendre. Et puis surtout, le problème, c'est que.
Parce que vous dépendez du RN à l'Assemblée, c'est
non,
plus compliqué que ça.
Quand on nous dit. Surtout, il y a un manque de discernement. Quand on nous dit, on va taper les grandes entreprises. 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger.
Oui,
ça va être compliqué d'augmenter leur fiscalité. Après, on dit, on va taper les gros contribuables. Je suis désolé, moi, tous les jours, je reçois des messages où j'ai des gros contribuables, justement, même si je les conseille pas en direct, mais sur ma chaîne YouTube, ils me parlent, ils me disent, moi, je suis en train de partir, ou je suis en train de fermer ma boîte, etc. Donc, les gros contribuables, ils vont partir. Ceux qui vont rester, ils vont pouvoir utiliser les services de fiscalistes et payer peut-être moins d'impôts. Et qui va payer à la fin? Qui va rester? Ben, comme d'habitude, c'est la classe moyenne. Et ce sont les PME. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, que j'arrive pas à comprendre dans ce discours qui est extrêmement dangereux et qui peut nous coûter très cher parce que ça va casser l'activité économique.
Une question pour vous, Julien Damon, sur le consentement à l'impôt dont on a dit tout et son contraire. Est-ce qu'il y a encore un consentement à l'impôt ou un consentement un peu plus aujourd'hui?
Il y a un très haut consentement à l'impôt parce que...
Alors aujourd'hui, oui, mais...
Oui. Et puis même dans les déclarations de gauche, de droite que l'on entend, parce que tout le monde est intimement convaincu que c'est l'autre qui va être frappé par cet impôt augmenté. Cet impôt augmenté qui va frapper les plus riches. Donc on est tous persuadés que les plus riches, ça n'est pas tout. Et ensuite, les grandes entreprises, alors on a l'impression que...
C'est ça la classe moyenne. Trop riche pour être pauvre et trop pauvre pour être riche.
Oui, c'est toujours cet adage. Et puis c'est très bien. Pour la classe moyenne, d'ailleurs, il n'y a pas de mesure socio-fiscale particulière. Ce qu'il faut faire pour plaire à la classe moyenne, c'est taper sur les riches et taper sur les pauvres. Voilà. Donc là, ils ont choisi de taper sur les riches.
Donc on va aller chercher quelques milliards, effectivement, pour.
On les trouvera pas. Encore une fois,
vous les trouverez. Si vous dilez un one shot, si vous rabotez sur les rachats d'actions, sur les énergéticiens.
Comme vous l'avez dit, ça serait un one shot.
3-4 pauvres milliards qui
seraient en plus. Coup. Bon. Et encore une fois, après, moi je pense en termes de crédibilité aussi. Puis n'oublions pas qu'on est au sein de la zone euro. Donc là aussi, ça fait désordre. Bon. Ça fait désordre. Et pour nos entreprises, effectivement, on avait ce discours de M. Macron sur la réindustrialisation, c'est formidable. On a eu les chiffres hier des directeurs d'achat en France.
Oui,
c'est catastrophique. 27e mois de baisse de l'activité dans l'industrie française. Elle est où la réindustrialisation?
Clairement, donc, pour conclure avant la pause, les industriels ne se reconnaissent pas dans le discours du MEDEF. C'est ça que vous nous dites ce soir, Bruno, finalement.
Il faudra en parler avec Patrick Martin, mais c'est clair que la base industrielle de beaucoup d'entreprises, elle n'est plus en France. Donc finalement, ce problème de taxation ne les concerne pas véritablement.
Et vous sentez...
C'est vraiment les PME, les ETI qui sont en première ligne. On veut même remettre en cause le pacte Dutreil, rendez-vous compte.
Oui.
Ça veut dire que la transmission ne serait plus possible, qu'une entreprise est forcément nationalisée ou vendue à chaque génération. Enfin, c'est vraiment la volonté de casser un système. Il faut atterrir, je pense.
Allez, c'est pas fait.
Oui, espérons que ce sera pas.
On verra mardi. Allez, 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h36, on est reparti jusqu'à 20h avec nos experts Marc Toiti, Nathalie Janson, Julien Damon et Bruno Grosjean. On va se faire un petit peu mal encore parce que vous savez qu'on a eu donc la composition du gouvernement samedi soir. On se disait, bon, bah, ça va peut-être détendre un petit peu les marchés lundi matin, l'ouverture. Pas du tout. On a le fameux spread, vous savez, l'écart de taux franco-allemand qui est remonté à 80 points. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, le signalait encore ce matin. Écoutez.
Ces derniers jours, c'est que les prêteurs internationaux, ceux qui prêtent à la France, nous disent aussi maintenant, il faut réagir. Avant les élections, avant début juin, on avait à peu près un écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne d'environ 0,50%.
C'est ce qu'on appelle le spread.
Ce qu'on appelle le spread en termes techniques. Maintenant, on est monté à près de 0,80. Donc il faut vraiment soigner cette maladie. Ouais.
Ça qui est génial, c'est que tout le monde connaît le spread maintenant.
C'est bien, ça évolue.
Et alors le pompon, parce que non seulement il y a ce spread à 80 points, mais que vous avez vu ça hier, on l'a suivi sur BFM Business, pour la première fois, le taux à 10 ans français est passé devant celui de l'Espagne.
Et avec le Portugal, on a 20 points de base.
Et 20 points de base. Alors c'est quoi? C'est la France qui s'enlise ou c'est l'Espagne? L'Espagne fait une remontada quand même assez...
On parle de spread aussi, là?
Non,
c'est ça qui est inquiétant, parce que pendant des années, on avait des taux d'intérêt inférieurs à tout le monde, sauf à l'Allemagne. Donc on se compare à l'Allemagne. Et pendant d'ailleurs de très nombreuses années, on avait le même taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France. Sauf que maintenant, on fait pire que beaucoup d'autres pays, pas seulement l'Allemagne. Je regardais hier, quasiment tous les pays, à part la Grèce, on va bientôt la battre. Puis il y a l'Italie également, mais à mon avis, ça ne va pas tarder.
Non, mais attendez, parce que
C'est extrêmement dangereux. Et puis n'oublions pas, ça c'est quand même très important, qu'on a le 11 octobre la notation de Fitch, le 25 octobre la notation de Moody's, et au mois de
fin novembre c'est Standard &
Poor's. Donc là, si on dégrade pas fortement la note de la France, je comprends plus. Hein, c'est-à-dire que là, et peut-être qu'il faut que ça arrive pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer.
Rendons hommage quand même à l'Espagne, qui est un pays qui va faire 2,8% de croissance cette année, et qui dont les déficits ne sont pas loin d'être revenus des 3% du PIB. Voilà, ils ont fait le job.
Parce qu'on peut faire deux remarques. La première, c'est que certains pays vont mieux que nous, dont l'Espagne, au premier chef.
C'est un moteur de croissance de l'Europe, l'Espagne aujourd'hui. Il faut le dire.
C'était un pays à regarder un peu de travers et que désormais on peut regarder avec intérêt et
admiration. On est obligé
pour l'Espagne. Et deuxième chose, remarque pour la France, on vit quand même une certaine heure de vérité. Enfin, tout ce que nous évoquons là, c'est pas la première fois que c'est traité dans ce plateau et partout ailleurs. Donc heure de vérité du déficit, de la dette et peut-être de problèmes encore plus graves que ceux que nous traitons là.
La discipline, ça paye quand même à un moment donné, Bruno. Voilà, les marchés à un moment donné vous rattrapent.
L'Espagne a fait ce qu'il fallait et on voit que la France est déclassée. C'est un des signes supplémentaires. Et moi, quelque chose qui me hante, c'est quand on regarde sur le temps long, même très long, quand on regarde au XVe siècle, la première économie d'Europe, c'était le Portugal et la dernière, c'était la Suisse. À l'époque, les Portugais faisaient la conquête du monde, se lançaient dans le commerce et les Suisses élevaient des vaches. Ce qui veut dire que la position française d'être un pays riche, comme c'est de moins en moins vrai, et on voit ce déclassement. Et comme on ne traite pas les causes de ce déclassement, parce que finalement, il y a ce terme d'effort dont je parlais, qui est totalement absent du discours politique, effort sur l'éducation, effort sur la compétitivité, effort dans tous les domaines, eh bien, on peut penser que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'est pas au bout, malheureusement, de ce déclassement français.
Nathalie Janson, sur ce croisement des courbes. Alors, c'était seulement hier, le 10 ans français est redevenu plus attractif aujourd'hui, mais quand même, voilà.
Oui, de toute façon, c'est un signe. Je pense que comme il n'y a pas encore de clarification, le gouvernement vient juste d'être nommé. On ne sait pas encore on va faire plus de hausses d'impôts. Ah oui, mais finalement, on va quand même taper sur les dépenses. Enfin, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de clarification, on peut aussi comprendre que ceux qui prêtent se demandent sur quelle stratégie, quel va être en fait le chemin d'après. Enfin, quels vont être les choix. Et là, il n'y a quand même pas de clarification. Moi, c'est ce que je regrette le plus d'ailleurs, parce qu'en fait, on a beau les discours en ce moment, ça a été il faut des hausses d'impôts, il faut des baisses de dépenses, mais en fait, la question principale, c'est quelle est la place de l'État dans l'économie pour qu'on puisse choisir quelles sont les dépenses à couper, parce que tant qu'on n'en est pas à cette question-là, c'est ridicule, ça va être on va faire des économies de bout de chandelle, on va aller racler les fonds de tiroir, ça n'a aucun intérêt. Il faut passer par un exercice qui est crucial, qui est celui de savoir qu'est-ce qu'on attend de l'État. l'État en priorité.
La réforme de l'État qu'on ne va pas faire maintenant, bah, voilà, un mi-mandat sans majorité claire. Je suis d'accord avec vous.
Mais le problème, effectivement, c'est ça qui peut être préoccupant.
Mais quand même, je pense que c'est important. Quand on regarde, je dirais, la répartition des dépenses publiques, on sait qu'on a 33% de prestations sociales. Mais le deuxième poste, c'est les dépenses de fonctionnement. 32% des dépenses publiques sont des dépenses de fonctionnement. Sur les trois dernières années, ça a fait quasiment 16% de hausse contre 12% pour l'ensemble des dépenses. Donc là, il y a du travail à faire. C'est-à-dire que là, les dépenses de fonctionnement, ça ne produit pas de la richesse, comme on le sait. Et donc, il y a un vrai travail d'envergure à réaliser, mais qu'on ne veut pas. Mais je suis d'accord avec Nathalie, ce n'est pas en faisant de saupoudrage. Oui. Il faut repenser complètement la dépense publique pour qu'elle devienne plus féconde en croissance. Parce que, juste pour terminer sur les taux d'intérêt, parce que ça, il faut que les Français le sachent, il y a des impacts au quotidien de l'augmentation des taux d'intérêt
immobilier,
bien sûr, la charge de la dette, mais surtout ça casse l'activité économique, ça casse la consommation, l'investissement, donc ça fait du chômage, et donc les Français vont payer tout ça malheureusement.
Vous avez écrit un que sais-je sur les dépenses de fonctionnement, parce que je rappelle que Julien Damon a écrit une foultitude de que sais-je, donc je ne sais pas si vous avez bossé sur ce sujet en particulier.
Non, mais je ne pense pas qu'il se vendrait beaucoup.
Fonctionnement,
ça se tente. Ok, il y a beaucoup de demandes.
Que sais-je les dépenses de fonctionnement
de l'État, ce serait absolument formidable.
Ah bah oui.
Remarque très rapide sur le mot effort. Je pense que c'est évidemment un mot qu'on devrait plus entendre dans le débat public, mais ça me fait immanquablement penser à Gaston Lagaffe. Je ne sais pas si vous avez vu cette planche. Gaston Lagaffe est allergique au mot effort. Effort, il éternue, etc. Oui. Deuxième remarque plus sérieuse sur les dépenses de l'État et sur notre situation. J'ai pensé par rapport à un des propos que vous avez tenus en disant que tout ceci, ça ne concernait pas l'État, ça concernait les Français. C'est qu'on fait toujours les rapports en points de PIB. Alors, autour de cette table, on est content, un point de PIB, zéro point de PIB. Et donc, on regarde les déficits et la dette en fonction du PIB. Non, il faut regarder le déficit et la dette en fonction du budget de l'État. Et on a un tout autre regard. On n'a pas 100% de...
Double la mise.
Plus que ça. On ne fait pas plus que double la mise. En dette publique, donc 100% du PIB, on est à 500-600% du budget public. Si on regarde le déficit public, ce n'est pas 6%, mais c'est entre 30 et 35%. Voilà, c'est un autre regard. Ça ne changera pas
Ça montre bien également dans l'inconscient collectif, on a l'impression que le PIB c'est à l'État.
Ah oui, exactement. Oui,
alors que non, heureusement d'ailleurs, le PIB c'est la création de richesse.
Plus loin, ceux qui critiquent les dépenses de l'État, en fait, sont ceux qui en profitent assez souvent. C'est-à-dire qu'ils critiquent le système dont ils profitent. C'est vraiment une incompréhension de l'économie grave.
Un dernier chiffre pour se faire un petit peu de mal, Nathalie, c'est pour vous, ce chiffre qu'on a eu il y a quelques heures. Donc, on va devoir emprunter l'an prochain en France 300 milliards d'euros sur les marchés. C'était 285 cette année, ça sera 300 milliards. Et on dit plein de bonnes choses à l'agence France Trésor, hein, cette task force qui est à Bercy, qui lève de l'argent tous les jours auprès d'investisseurs internationaux.
Bon, visiblement,
on dit l'Italie a levé des sommes plus importantes depuis des années, ça va passer. Bon,
de toute façon, d'un côté. En effet, le rôle en fait des marchés dans le financement de l'État, on se demande si vraiment on regrette peut-être le temps où il y avait moins de liquidités disponibles ou moins de portefeuilles à gérer, parce que en effet, ça a moins d'impact. Enfin, pour le moment, je ne pense pas qu'ils seront gênés aux entournures. Ils auront peut-être moins de... Vous savez, quand il y a des ventes, en fait, enfin, des émissions en fait, d'obligations, souvent, on les surdemande. Oui. Ils vont peut-être avoir un peu moins de surdemande parce que les investisseurs vont préférer un petit peu plus d'espagnols que de français. Mais je pense que ça va être la seule...
Les Allemands, les Espagnols vont lever moins de dettes l'an prochain. Tout le monde se dit, chic, ça va être pour nous.
Non, mais attention,
exactement,
quand même,
c'est quelque part, c'est ça.
Oui, c'est encore une fois, je reviens sur la notation de la France.
Oui, et là, par contre, si on
n'est plus double A, ce qui est très probable, il y a beaucoup de caisses de retraite, par exemple, ou de fonds d'investissement qui n'ont pas le droit d'acheter en dessous de double A. Alors, forcément, si on est triple B.
Oui.
Donc, il ne faut pas croire que ça va être automatique. On va récupérer, effectivement, 300 milliards. Ben, non, mais c'est une réalité. Encore une fois. Parce que lorsque l'État émet, en fait, il passe par des banques, qu'on appelle des SVT, spécialistes en valeur du trésor, et c'est les banques qui ont leur client aller acheter. Donc, le client dit, mais je veux bien, mais moi, je n'ai pas le droit d'acheter.
300 milliards, ça va passer crème. Vous le dites en fonction des notations de
ça peut passer aussi bien. Et donc, après, c'est le cercle pernicieux, les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité, et ainsi de suite.
C'était effectivement ce que j'ai toujours mis en avant. C'est tant que le rating va bien, tout va bien.
Bon, première réponse, le 11 octobre, effectivement, vous voyez passer le tableau, ça sera Fitch. Moody's le 25 octobre et Standard & Poor's le 29 novembre. D'ici là, peut-être que du côté de l'agence France Trésor et de Bercy, on regardera les choses différemment. 19h45, un petit mot d'automobile avec ces négociations qui ont commencé chez Volkswagen aujourd'hui entre la direction, les salariés, avec la menace, on l'a bien compris, de fermeture fermeture de sites sur le sol allemand, ce qui serait du jamais vu. Écoutez ce salarié interrogé qui, lui, ne pense pas que cela puisse arriver encore aujourd'hui.
In my opinion, it's not the right way.
Selon moi, laisser les employés payer pour les mauvaises politiques de l'entreprise n'est pas la bonne solution.
The politics of the company. That's the first time Volkswagen.
C'est la première fois que Volkswagen parle de virer des salariés et de fermer des usines. Et pour nous, ce n'est pas envisageable, car ce n'est pas la culture de l'entreprise.
Mais si, avec ça, on a vu que ça bougeait du côté d'Audi la semaine dernière à Bruxelles, il y a des menaces de grève chez Fiat en Italie, d'une ampleur qu'on n'aurait pas vue depuis 40 ans. Voilà, c'est l'industrie automobile européenne dans son ensemble qui est sans dessus, Bruno, finalement.
Oui, c'est le suicide européen qui vient, en fait, du dieselgate. Et pour se refaire un peu une virginité, eh bien, on a accepté ce basculement vers le tout électrique, dont on savait, parce que si on connaît un peu la technologie, les enjeux, la concurrence, on savait que ce serait très difficile. Eh bien, c'est en train de se passer. Alors, en France, on n'en parle pas trop, parce que nous, l'automobile, elle a déjà disparu. Donc, on est très fort, puisqu'on n'a plus de plans sociaux, on les a déjà.
Chez Renault, on négocie, on en parle moins. On est aussi en ce moment, à l'heure actuelle,
ils ont parlé de survie chez Renault. Ouais. Mais comme il reste très peu de choses, finalement, ça ne fait pas les grands titres. Et en Allemagne, c'est dramatique parce que c'était pour l'Allemagne une fierté nationale. Mm-hmm. C'était un modèle économique sur lequel était basée l'Allemagne, la paix sociale, des salaires relativement importants, des primes de fin d'année du fait des bons résultats et une sorte de complexe du supériorité qui disait les Chinois achèteront toujours nos machines, le Dassa Auto, le Made in Germany, etc. Et ça, c'est en train de s'écrouler.
Ils ne sont pas donné toutes les chances en supprimant le bonus auto électrique aussi non plus. Hein, ça, quand même.
Oui, c'est clair que ça ne joue pas, mais enfin, c'était un marché subventionné. Il y a un moment, la réalité s'impose. Hein.
Symptomatique de la décadence actuelle de l'Allemagne, Marc, finalement.
Oui.
Il y a Commerzbank aussi dont on parle qui crée beaucoup d'émoi. Enfin, voilà,
on est très inquiet pour l'économie allemande. Alors certains s'en réjouissent. N'oublions pas que l'Allemagne, c'est 33% du PIB de la zone euro. Donc si l'Allemagne s'effondre, on ne va pas beaucoup résister, hein, entre guillemets. Et puis surtout, on a vu les indicateurs IFO des directeurs d'achat là, des derniers mois. C'est une catastrophe, notamment dans l'industrie. La récession est en train de s'installer. Ça veut dire du chômage qui augmente déjà depuis plusieurs mois. Et puis voilà, des fleurons comme Volkswagen. Alors bon, après, il ne faut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que les Allemands ont de quoi résister, mais il faut qu'ils pensent comme en 2002, à l'époque.
C'est difficile parce qu'il y a eu la crise de l'énergie qui a fortement touché la chimie allemande qui était très forte.
Oui.
Et puis une incapacité à faire évoluer le modèle. Siemens, à un moment, s'était lancé dans les PC avec Nixdorf, ça a été une catastrophe. Là, Volkswagen avait lancé une société chargée de développer du logiciel, incapable de le réaliser. Il y a une sorte de malédiction européenne.
Ouais.
On
allemande.
Est incapable de rentrer dans les nouvelles technologies.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste pour terminer, c'est que si l'Allemagne va mal, évidemment, elle va être beaucoup moins sympathique, entre guillemets, avec les autres pays européens. Et donc, comme l'Allemagne a quand même fait le job, elle a réduit ses déficits, etc., elle supporte plus que les Français continuent de les augmenter pour un petit peu de croissance. Mmh. Et donc là, à mon avis, ça risque de... Ceux qui croient justement qu'on va faire la planche à billets, tout ça, non, l'Allemagne ne laissera pas faire. Ouais. Donc là, il faut faire attention. La zone euro est de nouveau en danger, malheureusement.
Nathalie.
Oui, c'est certain que, enfin, voilà, poursuivre sur ce que dit Marc, je pense que ça va générer des tensions. Parce qu'en effet, c'est quand même la grande différence entre l'Allemagne. L'Allemagne ne va pas bien, mais elle a des ressources potentielles pour faire face à sa situation. Alors que nous, on va peut-être pas si bien non plus, mais on n'a plus de ressources.
C'est là que l'Allemagne va durcir le ton avec la France, plus qu'elle ne l'a fait
en
mode.
Elle peut dire, bon, maintenant, nous, on a fait des réformes il y a très longtemps, vous traînez des pieds, vous les agagez. Mais faites
sur la retraite notamment.
Voilà,
enfin, il y a un sentiment d'injustice.
Ah, carrément.
Là, vous sentez qu'on arrive
au niveau européen, on est quand même.
On arrive au bout d'une histoire avec les Allemands. Là, maintenant, ça passe ou ça casse.
Bah, quand on est, on a un peu moins de marge de manœuvre. Évidemment, on est moins généreux et on se replie plus sur soi. C'est un peu logique. Ouais.
Finalement, Julien, je pensais à ça. On parlait tout à l'heure du spread, l'écart de taux franco-allemand. Enfin, avec l'Allemagne qui est la référence absolue, mais dans une économie allemande complètement déboussolée, est-ce que c'est encore du sens de se comparer à l'Allemagne du point de vue des taux finalement?
Oh, bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, faut se comparer avec tous les autres.
Il faut arrêter avec le spread là, avec l'écart.
Oui, il faut arrêter de parler du spread.
Non, parce que c'est le pays le plus sérieux d'un point de vue budgétaire. C'est pour ça. N'oublions pas aujourd'hui. En termes de marge de manœuvre. d'ailleurs, on a une dette publique allemande de 65% du PIB, et nous on est à 111%. Donc, bah, eux,
on raisonne encore en PIB, là.
Oui, mais la dette, c'est pas grave. Mais, fortiori, mais du temps qui monte, effectivement, à 100%, il y a de la marge.
Plusieurs remarques rapides. Très vite. La première, c'est sur mes ratios et mes règles de 3. J'aime bien ça. Les 300 milliards d'euros qu'on évoquait tout à l'heure, il faut avoir à l'esprit que ça fait les 2/3 du budget de l'État. C'est quand même plus carré que d'avoir cet ordre de grandeur à l'esprit. Deuxième remarque, la dernière, c'est sur l'univers automobile que je ne connais absolument pas, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, je tire une remarque, c'est que des entreprises qui sont des modèles au sein du modèle social allemand sont en train de connaître ce qu'a connu Renault, qui était un modèle au sein du modèle social français. Et donc, c'est en effet très grave.
L'industrie automobile dans tous ses états. Les 19h51, l'extra time pour terminer. Vos coups de gueule, coups de cœur sur 30 secondes. Il faut essayer de les tenir. On peut faire ce peu. Marc, allez, toi, Marc.
Oui, bah, bon, on a déjà parlé, donc, mais je vais revenir. C'est sur ce scandale d'État. Parce que, encore une fois, les chiffres du déficit public donc, vont sortir. On aura le détail des chiffres l'année prochaine seulement, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un dérapage très grave. Ça fait 8 mois qu'on le voit. Pourquoi n'a-t-on rien dit ? Donc, est-ce qu'il y a eu vraiment un trafic de chiffres ? Est-ce qu'on s'est juste voilé la face ? Ça va être extrêmement important de voir, parce que là, je pense qu'on est encore une fois face à un scandale d'État, et espérons que, bon, ça sera la bonne solution, que peut-être on fait des erreurs de calcul, mais je pense qu'encore une fois, il y aura des conséquences dramatiques pour l'avenir de la France.
On n'en est qu'au stade des questions, Marc, de ce point de vue-là, mais un jour, on aura les chiffres, comme vous dites. Nathalie Janson, Nathalie, c'est à vous.
Alors, moi, je décerne un prix à la Chine, qui m'a beaucoup amusé avec son plan, la Banque de Chine qui a décidé donc un plan c'est 800 milliards de yuan, qui est l'équivalent d'une centaine de milliards de dollars, qui après tout n'est pas si important que ça quand on voit la taille de la Chine. Mais bon, bref, ce plan inédit de la Banque centrale qui a pour but, il faut quand même bien l'entendre, il faut que tous les dirigeants français et politiciens français l'écoutent bien, et le but, c'est de financer le rachat d'actions pour faire remonter la bourse. J'ai adoré, je vais l'envoyer spécialement à Emmanuel Macron et à tous les politiciens pour leur dire qu'en Chine, on recommande le rachat d'actions.
C'est un cas d'école. Bruno Grandjean, 30 secondes.
Oui, moi, je voulais faire un rapide plaidoyer pour le crédit d'impôt recherche qui a été mis en cause dans la longue liste de prélèvements, puisqu'aucun industriel ne l'a vraiment fait. Le CIR, il faut rappeler qu'il est ciblé sur le secteur exposé, qu'il est vertueux puisqu'il concerne l'innovation, la recherche, et qu'il compense en partie la surtaxation très forte qu'on a sur les ingénieurs, sur les chercheurs, sur ceux qui font, qui mènent nos entreprises au sein de l'industrie. Donc, pas touche au crédit d'impôt.
Le coup de gueule ce soir de Bruno Grandjean. Julien Damon, pour conclure, 30 secondes.
30 secondes sur les dénominations des commissaires européens. Vous savez qu'on est en train de mettre en place la nouvelle commission, plus précisément le collège des commissaires. Et je vous livre dans la commission 2019-2024 quelques-uns des intitulés. Nous avions un vice-président exécutif en charge du pacte vert pour l'Europe, des relations interinstitutionnelles et de la prospective. Un autre qui s'occupait vice-président pour la promotion du mode de vie européen. J'espère qu'on n'aura pas ça dans la nouvelle commission. Ceci dit, il en est un qui est prévu et il s'appellerait commissaire environnement, résilience en matière d'eau et d'économie circulaire compétitive. Plus concrètes.
Ça fait froid dans le dos quand même. Hein, quand on voit les enjeux de l'Europe comme
ça. Il n'y avait pas de commissaire à la défense à l'époque. Il y en a un que cette année. Non mais voilà,
c'est triste d'avoir comme ça l'Europe qui malheureusement va à volo.
Bah, c'est triste de voir ce que c'était il y a 5 ans déjà. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir. Marc Toiti, Nathalie Janson, Julien Damon et Bruno Grandjean. Merci à tous, à très vite. 19h54, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Les déficits publics français qui pourraient donc dépasser les 6% du PIB à la fin de cette année. La situation aggrave, a dit Laurent Saint-Martin. La France qui par ailleurs a jusqu'au 31 octobre désormais pour présenter à Bruxelles sa feuille de route budgétaire. Volkswagen qui entame les négociations cruciales concernant l'avenir des effectifs. Vous savez que le groupe n'a pas exclu de fermer des sites sur le sol allemand. Et puis cette plainte assez inhabituelle, Google qui dépose une plainte contre Microsoft devant la Commission européenne. Google accuse son concurrent de pratiques anticoncurrentielles dans le domaine du cloud. On va en parler dans un instant, justement, dans Tech & Co qui arrive dans quelques minutes. François Sorel et toute son équipe. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h en direct, pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.